Radio Kapi.
Oh, Kapi.
En direct de Kinshasa, il est 18h pile. Voici un nouveau journal sur Radio Kapi. Au Nord Kivu, un calme précaire règne ce vendredi sur les lignes de front entre les FRDC et les rebelles du M23 dans les territoires de Rutshuru et de Nyiragongo. Seulement voilà, le trafic n'est pas restauré sous la nationale numéro 2. La ville de Kinshasa vient d'abriter la table ronde sur la gouvernance minière. Les discussions de 3 jours ont porté sur les mesures à prendre pour que ce secteur soit un véritable levier de développement de la RDC. Notre invité, c'est la présidente de l'ONG Rien sans les femmes du Kasaï central. Nathalie Kambala a entamé des consultations pour proposer au nouveau gouverneur une liste des dames capables de faire partie du gouvernement provincial. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Madame, messieurs, bonsoir. Au micro, Pascal Masserica, mise en nom de Dalengoy. Au Nord Kivu, un calme précaire règne ce vendredi sur les lignes de front entre les FRDC et les rebelles du M23 dans la zone de Kanombe, groupement de Kisigari et de Kibumba, territoire de Rutshuru et de Nyiragongo. Le trafic sous la nationale numéro 2 n'est pas encore restauré par l'autorité provinciale, même si certains usagers forcent le passage depuis hier. C'est ce que nous explique Bernard Danyangi.
Aucune détonation n'a été entendue toute la nuit dernière et jusqu'à ce vendredi matin sur la ligne de front entre l'armée et la rébellion du M23 dans la zone de Kibumba. La situation est identique à Kanombe, territoire de Rutshuru, que le FRDC contrôle depuis hier, indiquent les sources civiles et coutumières. Celle-ci estime cependant que rien n'évolue par rapport aux positions occupées par les deux forces dans le Nyiragongo. Les rebelles du M23 occuperaient toujours plusieurs villages du groupe Makibumba et Bumba par exemple, même si ces derniers ne sont pas visibles sur la route principale. Contacté ce matin, le porte-parole du gouverneur parle plutôt d'une avancée positive de l'armée vers Kibumba et Bumba pour reprendre le contrôle total. Mais la société civile de Nyiragongo affirme que, depuis hier jeudi, quelques taximens, motos et voitures forcent le passage du côté de Rutshuru. D'autres sources renseignent que, ce vendredi matin, une centaine de véhicules qui stationnaient à Kiwanja, entre autres, ont quitté pour tenter le passage vers Goma. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Nord Kivu, encore plusieurs écoles du territoire de Nyiragongo sont fermées depuis mardi dernier dans les groupements de Kibumba, Buhumba et Kibati suite aux affrontements entre les FRDC et les rebelles du M23. La société civile locale s'inquiète du sort de plusieurs centaines d'élèves à l'approche de la fin de l'année scolaire. À Goma, Gabriel Wamenya.
Dans les groupements de Kibumba, où les affrontements ont commencé depuis mardi dernier, toutes les activités scolaires ont été immédiatement suspendues jusqu'à ce jour. Des centaines d'élèves et d'écoliers ont fui avec leurs parents pour se mettre à l'abri des hostilités dans les zones sécurisées. Dans les groupements voisins de Kibati, c'est presque le même décor. Cette situation a entraîné au même moment la fermeture d'une partie des écoles dans les groupements de Munigi, où s'est déversé plusieurs centaines de ménages qui occupent actuellement toutes les écoles et les églises de la partie nord de cette agglomération. Cet état des choses inquiète de plus en plus la société civile de Nyiragongo et exige des dispositions idoines pour sauver l'année scolaire en cours. Mambo Kawaya.
Au niveau de la sous-division de Nyiragongo 1, c'est là où les activités tournent vraiment au ralenti. Parce que à presque toutes les écoles ont accueilli les déplacés. Si vous voyez l'épée Mboga, l'épée Bujari, les églises et d'autres bâtiments, il y a un afflux de déplacés qui résident.
Contacté, le chef de la sous-division de l'EPST Nyiragongo 2 a promis de s'exprimer ultérieurement par rapport à cette situation. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Kapi.
Et puis les FRDC appuyés par les casques bleus de la MONUSCO sont organisés pour contrer les actions du M23. Déclaration faite à Kinshasa par le commandant second de la force onusienne lors de l'émission au Kapi Service. Le général Benoît Chavana confirme que les FRDC ont récupéré toutes leurs positions qui étaient occupées par ces rebelles. Il est au micro de Jodine Kachama.
Ça fait quand même un moment que le dispositif FARDC a été renforcé
organisée de manière à faire face à cette menace et à contrer de manière proportionnée, point par point, toutes les actions offensives du M23. Et la MONUSCO s'inscrit dans ce cadre puisque nous avons planifié ensemble des opérations. Donc tout ce qui a été fait depuis quelques jours, et notamment depuis dimanche matin dernier, relève de l'application de plans militaires qui avaient été préparés entre les FRDC et la MONUSCO. Et vous remarquerez, et je pense que dans les jours qui viennent, on pourra le confirmer de manière plus officielle encore, que les positions qui avaient été gagnées par le M23 ont été toutes reprises, point à point, tour à tour, par les FRDC avec l'appui de la MONUSCO. La MONUSCO y a déployé l'ensemble de ses moyens, l'ensemble de ses capacités, qu'elles soient de renseignement, d'observation, de transport, d'appui-feu, que ce soit l'artillerie, les mortiers, les hélicoptères d'attaque.
En Ituri, pendant 7 ans, 17 corps en état de putréfaction ont été découverts jeudi dans une pirogue sur la rivière située à 25 kilomètres du village de Bamandé Centre, dans les territoires du Rumu. Des sources officielles parlent des personnes qui avaient été prises en otage par des rebelles ougandais de l'EDF dans la région de Mungamba. Les infortunés ont été enterrés ce vendredi par la Croix-Rouge. Pour en parler, retrouvons à Bunia Martial Kizabiamungu.
Certains habitants qui s'est rendus dans leur champ ont aperçu une pirogue qui flottait sur les eaux de la rivière Ituri, couverte de bâches. Ils ont ensuite alerté les autorités coutumières du village Bamandé, à 18 km des commandes à centre. Selon des sources de sécurité qui citent des témoins, la pirogue était chargée des corps décapités et en décomposition. Les victimes sont des habitants des villages Bamandé, Mogamba et Lolwa, qui avaient été capturés il y a environ un mois par des présidents mais ZADEF dans l'air champ au cœur de la forêt. Ce jeudi matin, l'administrateur du territoire d'Irumu, accompagné d'une équipe de secouristes de la Croix-Rouge, s'est rendu sur les lieux afin de prendre des dispositions pour l'inhumation de ses corps. Il déplore cependant que, malgré son interdiction pour des raisons de sécurité, la population continue à aller au champ loin de la forêt où des rebelles des ZADEF sont en errance. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Revenons un instant au Nord Kivu où la société civile de Kikuvo, au sud du territoire de Lubero, a alerté sur la montée de l'activisme des miliciens sur la route de Kamandi depuis quelques jours. Des hommes armés s'adonnent au kidnapping. Jeudi soir, un civil transporté à moto a été grièvement blessé par balle lors d'une embuscade tendue à Kakondero. Le récit à Butembo de Grâce Amzati.
L'incident a eu lieu vers 19h, heure locale. Un conducteur de moto transportait 3 passagers depuis Talia pour Kikuvo dans la chefferie de Batangi sur la côte ouest du lac Édouard. Arrivé au cimetière de Kakondero à l'entrée de Kikuvo, des personnes armées ont surgi et barré aux voyageurs. À en croire des sources de la société civile locale, l'un des passagers, un commerçant, a reçu une balle. Le conducteur et les 2 autres passagers se sont enfuis, abandonnant la moto qui a été récupérée par les assaillants. Après les départs des personnes armées, le passager blessé qui a finalement reçu de l'aide a été conduit dans un centre de santé où il est actuellement soigné. Pour la société civile, l'objectif des assaillants était de prendre possession de la moto, moyen de transport très pratique dans cette partie du pays où les routes ne sont pas particulièrement en bon état. Cet incident n'est pas isolé. Il y a une semaine, 2 autres motards avaient connu le même sort dans la même zone. L'administrateur du territoire de Lubero, que nous avons joint au téléphone, confirme ces informations. Il annonce que des patrouilles de combat seront bientôt menées dans cette région par des militaires. Butembo, Grâce Amzati, Radio Kapi.
L'actualité, c'est aussi la fin hier jeudi à Kinshasa de la table ronde sur la gouvernance minière. Durant 3 jours en effet, les participants aux assises de 3 jours ont échangé sur les mesures à prendre pour que ce secteur soit véritablement un levier de développement de la RDC. La ministre des Mines s'est engagée à assainir l'artisanat minier, source de beaucoup de problèmes. Un reportage de Cynthia Bachizina Bizana.
La ministre des Mines a dans son discours de clôture établi une corrélation entre l'exploitation minière artisanale et la persistance des groupes armés, surtout dans la partie est de la RDC. Voilà pourquoi l'artisanat minier préoccupe au plus haut point le gouvernement congolais. Antoinette Samba Kalambay.
Si aujourd'hui à l'est du pays nous avons la guerre, et encore, je crois que vous avez suivi par la voix des ondes, ce n'est qu'à cause des minerais du Congo. Et l'artisanat minier, si nous arrivons à l'assainir, je pense que les bonnes choses viendront à l'est du pays. Et nous pourrons taire le bruit des bottes à l'est de notre pays.
C'est ainsi qu'à l'issue de cette table ronde, toutes les parties prenantes ont émis le souhait de voir le secteur minier contribuer davantage au développement socio-économique du pays. Cela passe notamment par la transformation au niveau local des minerais avant leur exportation. Et des initiatives privées méritent ici d'être saluées. Une raffinerie d'or sera bientôt fonctionnelle au sud Kivu, dans la ville de Bukavu, une première en RDC.
Santé à présent. Au sud Kivu, près d'un million d'enfants seront vaccinés contre la poliomyélite. Il s'agit des enfants de 0 à 5 ans. Le territoire de Chabunda a enregistré à lui seul 3 cas de poliomyélite. Les autorités sanitaires qui ont lancé cette campagne de vaccination hier à Bukavu invitent les parents à prêter les enfants à cette campagne de vaccination de porte à porte. Des précisions avec le chargé de communication de la division de la santé publique, Dr Claude Baiziré, s'est confié à Rachel Kiesemangu.
La province était obligée d'organiser une campagne de vaccination contre la poliomyélite en faveur des enfants âgés de 0 à 5 ans. La raison, c'est que ces derniers temps, il y a un type de polio qui a commencé d'abord par être notifié dans certaines provinces de l'Ouest. Mais depuis le début de l'année, la province sœur ici de Maniema s'est vue jusqu'au jour d'aujourd'hui, à partir de janvier, enregistrer autour de plus de 23 cas de polio chez les enfants entre 0 à 5 ans. Alors, nous avons voulu organiser cette campagne pour essayer de barrer, donc faire une ceinture autour de cette province du Maniema. Au jour d'aujourd'hui, notre province est déjà atteinte. Nous avons 3 cas dans le territoire de Chabunda, au sud Kivu. C'est une maladie handicapante pour toute la vie. Ce qui fait que ça devient une urgence encore davantage pour que cette maladie ne puisse pas s'étendre davantage vers les autres territoires et pourquoi pas les autres enfants toujours du territoire de Chabunda. L'unique moyen de prévenir la polio, c'est faire vacciner les enfants. Dans la province du sud Kivu, nous attendons autour de 1 600 000 enfants âgés de 0 à 5 ans pour se faire vacciner. Et l'idéal, qu'on puisse vacciner tous les enfants.
On en vient maintenant à l'inauguration hier jeudi d'un forage d'eau potable à la prison centrale de Makala, ici à Kinshasa, une œuvre du gouvernement congolais en partenariat avec l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO. Pour renforcer la desserte en électricité, un générateur de 550 kVA a été allumé, suivi de la remise d'un charroi automobile à cette prison et à celle de Luzumu. À cette occasion, la ministre de la Justice, Madame Rose Mutombo, a annoncé la libération prochaine de plus de 2000 détenus bénéficiaires de la grâce présidentielle. C'est ce que nous explique Jeff Ngoy.
La prison centrale de Makala souffrait d'approvisionnement en eau potable et d'un déficit en électricité, en plus des véhicules. Rose Mutombo a résolu ces problèmes avec l'appui de la MONUSCO et de la Fondation Oidal. Elle a aussi subvenu aux besoins des mineurs en conflit avec la loi par des vareuses sportives.
Nous venons de donner à la population carcérale de l'eau et l'électricité. Je salue nos différents partenaires qui nous accompagnent dans cette mission. Nous avons aujourd'hui des ambitions qui n'existait plus au niveau de Makala. Et surtout, le grand bus qui pourra servir d'itinérance.
Patience Saï, responsable de l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO, explique en quoi consiste cet appui.
Nous avons fait un don de 3 ambulances et un véhicule à l'administration pénitentiaire. Une ambulance pour Makala, il y a une ambulance pour le camp de détention de Luzumu et il y a une autre ambulance pour l'école pénitentiaire que nous avons également aidé l'État congolais a construit.
Au pavillon 10 des mineurs, plus de 400 enfants en conflit avec la loi s'amendent et recommandent à la ministre de se divertir et d'étudier. Ils n'ont pas de lit. La ministre leur répond avoir pris bonne note de leur demande.
Actualité internationale.
Le sommet de l'Union africaine se prépare en ce moment à Malabo, en Guinée équatoriale, où les ministres des Affaires étrangères examinent autour de la table les déclarations à soumettre ce week-end au chef d'État. Cette réunion de Malabo s'ouvre au moment où l'Afrique est marquée ce jour-ci par le retour des coups d'État, notamment en Afrique de l'Ouest, la montée des menaces djihadistes au Sahel et leur progression vers le Golfe de Guinée. au 93e jour de l'invasion russe en Ukraine. Ce vendredi, les Nations Unies affirment que plus de 4000 civils ont été tués en Ukraine depuis le début de la guerre le 24 février dernier. Et puis la Chine et la Russie ont empêché hier jeudi après-midi le Conseil de sécurité des Nations Unies d'imposer plus de sanctions à la Corée du Nord, ce pays qui multiplie en ce moment les essais de missiles balistiques. Un double veto pour une résolution des États-Unis d'Amérique soutenue par 13 membres du Conseil de sécurité qui bannissent les exportations de pétrole et de tabac vers Pyongyang.
L'invité.
Notre invité, c'est la présidente de l'ONG Rien sans les femmes au Kasaï central. Madame Nathalie Kambala a entamé des consultations pour proposer au nouveau gouverneur élu la liste des dames capables de faire partie du nouveau gouvernement provincial. Elle s'entretient avec François Kadima.
Madame Nathalie Kambala, bonjour.
Bonjour.
Les femmes s'activent à la suite de l'élection de gouverneur de province pour essayer de faire le choix de certaines femmes. Alors, qu'est-ce qui vous pousse et où est-ce que vous en êtes avec votre démarche?
Oui, nous voulons accroître la représentativité égalitaire de femmes à des instances de prise de décision ici au Kasaï central. Vous savez que depuis un temps, il y a eu des élections du gouverneur et vice-gouverneur et à la tête de notre province, nous avons un nouveau gouverneur. C'est ainsi que les femmes, on devait déjà se mettre en ordre utile pour avoir des candidates valables qui pouvaient aussi accompagner le gouverneur dans son mandat. C'est ainsi que les femmes se sont réunies, différentes organisations, les collectifs, le mouvement Rien sans les femmes, les conseils provinciaux de la femme. Nous nous sommes réunis pour un peu réfléchir sur les avancées par rapport à notre représentation à des instances de prise de décision. Nos constats étaient un peu amers pour voir que dans le temps, il y avait beaucoup de femmes dans le comité de gestion ici dans l'espace du Kasaï central, mais aujourd'hui il n'y a pas de femmes dans les comités de gestion, à part une institution supérieure qui vient de nommer une femme directeur général. Alors on a fait aussi les constats au niveau de l'enseignement primaire et secondaire, les deux sous-provettes qui étaient là venaient d'être écartées et les 12 sous-provettes sont des hommes. Alors cette situation nous a mis un peu mal à l'aise, voir aussi les différents gouvernements provinciaux. Alors on s'est dit, à notre niveau, nous devons déjà commencer à travailler à l'interne. C'est ainsi que nous avons mis un comité ou une commission ad hoc sur terrain pour commencer à recevoir les candidatures. On ne veut pas avoir des conflits avec les partis politiques. Notre souhait est qu'on connaît quand même quelques femmes qui sont capables aujourd'hui d'accéder à des postes de prise de décision, qui sont capables d'être ministrables.
Cette démarche, vous la menez seule ou sans conseil? Concertation avec le nouveau gouverneur élu, parce qu'il peut accepter de prendre les femmes que vous mettez à sa disposition ou pas?
Oui, je pense qu'il y a eu des déclarations où nous avons passé de messages forts auprès du gouverneur. Évidemment, on ne peut pas se concerter avec le gouverneur. Nous, on pense que cette fois-ci, évidemment, pour le moment, le gouverneur est en train de contacter, peut-être consulter les gens, les partis politiques. Mais nous aussi, nous sommes une force de la population. Nous sommes une grande partie prenante qui peuvent accompagner le gouverneur. L'idéal, c'était que le gouverneur pouvait aussi venir nous consulter. Je sais que ça se fera, puisque déjà, en catimini, ça s'est fait, mais nous, on veut cette fois-ci que ça soit officiel. On a demandé même les femmes, que vous soyez des membres de famille du gouverneur, que vous soyez des membres des partis politiques du gouverneur ou vice-gouverneur de grâce, nous voulons cette fois-ci que les listes que les collectifs des femmes vont donner à l'autorité provinciale, que l'autorité puisse considérer ces femmes, parce qu'à notre niveau, on connaît déjà les femmes.
Alors, ce combien de femmes vous souhaitez proposer à l'autorité provinciale et vous désirez en avoir combien dans l'équipe?
À notre niveau, nous pensons donner une liste de 10 femmes à l'autorité provinciale. Ça dépend de la capacité du gouvernement provincial qui va mettre en place. Mais au-delà, si c'est un gouvernement de 10 personnes, je pense que les 5 femmes, et si on les prend dans notre liste, ça fera de la joie. Et le reste de femmes, c'est pas pour le rejeter. Il y a des cabinets, donc on peut encore recourir à notre liste pour mettre les femmes par-ci, par-là. Parce que ce sont des femmes ici, ce sont des femmes qui sont actives dans la politique, ce sont des femmes scientifiques, ce sont des femmes capables qui peuvent apporter
une pierre à l'édifice dans la gestion de cette province.
Gestion de la province, question de développement, vous pensez que les femmes peuvent apporter quoi pour aider cette province à se développer, par exemple?
Le changement de vie quotidienne de la population, parce que vous savez que un gouvernement provincial, c'est pas le gouverneur qui décide, c'est toute une équipe en place, et dans chaque gouvernement, il y a des différents ministères, et chaque ministère, c'est un domaine bien précis. Je pense qu'une femme en donne un des domaines, je pense qu'elle va aussi faire de son mieux pour changer un peu la vie de la femme, de la vie de la population ici au Kasaï Central.
Madame Nathalie Kambala, nous vous disons merci.
C'est moi qui vous remercie.
C'était l'invité de Radio Okapi, la présidente de l'ONG, dénommée Rien sans les femmes au Kasaï Central. Madame Nathalie Kambala est interviewée par François Kadima et c'est la fin de cette édition d'information à Kinshasa. Il est 18h20. Infiniment merci à Noëlla Luzitu Kabambi et Pierrot Elameji qui m'ont accompagné.